Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, je suis découragé par mon niveau de consécration à Dieu. Je m'explique, il y a toutes sortes de choses que je pense savoir intellectuellement dans ma tête. Je ne mets pas en doute ce que dit la Bible. Je suis persuadé qu'il y a un Dieu et qu'il a envoyé son fils Jésus faire tout ce qu'il fallait pour me sauver. Mais bien souvent, je constate que ma vie n'est pas radicalement conditionnée par ce que je dis croire. Des fois, je fais le mal. Des fois, je dis le mal. Des fois, j'ai plus envie de regarder un film bidon que de lire la Bible. Des fois, je viens à l'église à reculons. Des fois, je ne suis pas profondément persuadé de l'intérêt de prier. Et quand je constate ces choses dans ma vie, ça me plombe le moral. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me plombe le moral. Et si par malheur, dans ce type de situation, je tombe sur un article ou sur un livre qui raconte la vie d'un grand puritain ou de tel grand prédicateur missionnaire du 19e siècle, alors c'est tout ce qu'il faut pour m'achever. Comment Dieu pourrait-il jamais me soutenir dans la vie, moi, qui ai une consécration si hésitante, si incrédule parfois? Et je suis prêt à parier que vous êtes plusieurs ici à passer par ce type de découragement régulièrement, et peut-être même que vous y êtes aujourd'hui même. Vous avez l'impression d'être un nul en termes de foi chrétienne et de piété. Certes, vous n'avez pas rejeté Dieu, mais en même temps, vous savez pertinemment qu'il n'a pas vraiment la place qui lui revient dans votre vie. Il y a tellement d'autres choses qui vous paraissent importantes et qui prennent le pas sur votre relation avec Dieu, des préoccupations matérielles, des ambitions personnelles, des loisirs, des relations amicales ou amoureuses, etc. Peut-être que vous êtes en proie à des doutes ou à des tentations récurrentes ou même à des addictions inavouables. Comment Dieu pourrait-il jamais vous soutenir dans la vie quand vous avez une consécration si faible et si hésitante, quand il y a tant d'incrédulité dans votre cœur? Et puis il y en a d'autres parmi vous, peut-être, qui ne prétendent même pas être chrétiens, c'est possible. Si vous êtes là, on est très heureux que vous soyez là, mais peut-être que vous êtes venu comme un observateur curieux, ou bien comme un observateur cynique, ou bien comme un observateur indifférent, tout simplement, ou peut-être que vous êtes sincèrement à la recherche de réponses à vos questions, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, et que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, le texte qu'on est sur le point de lire veut nous guérir de notre hésitation à suivre Jésus en nous faisant contempler sa puissante compassion envers les hommes. En fait, le texte a une excellente nouvelle à nous annoncer qui peut changer beaucoup de choses à notre relation avec Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est la suivante. Ton incrédulité n'est pas plus forte que la compassion de Jésus à ton égard. Ton incrédulité n'est pas plus forte que la compassion de Jésus à ton égard. C'est une leçon simple, mais qui peut avoir des conséquences importantes pour notre vie, comme j'espère qu'on va le voir cet après-midi. Avant de faire la lecture, j'aimerais préciser que ce texte qu'on est sur le point de lire a une structure particulière, me semble-t-il, une structure symétrique destinée à mettre en opposition au début une situation où Jésus est rejeté, et à la fin, une situation où Jésus est recherché. Et entre les deux, une situation où Jésus subit le mal et une situation où Jésus exerce le bien. Et entre les deux, au cœur de cette symétrie, ou au cœur du chiasme, je dis ça pour les spécialistes, pour les experts, et il y a tout simplement le contraste saisissant entre l'opprobre que subit Jésus, c'est-à-dire le déshonneur, le mépris que subit Jésus, et de l'autre côté, la miséricorde qu'il pratique. Jésus, le Messie, d'un côté incompris et isolé, mais qui pourtant, de l'autre côté, se montre compatissant et efficace. Voilà le vrai Jésus, le Jésus authentique, le Jésus de la Bible, le Messie, le vrai Fils de Dieu, que nous devrions, à la fin de ce passage, désirer de tout notre cœur. Alors lisons ce texte, il s'agit de l'Évangile selon Matthieu chapitre 13, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois, verset 53, et on va lire jusqu'à la fin du chapitre 14. Donc c'est un passage assez long, je vous encourage à avoir une Bible sous les yeux et même à la garder ouverte à ce même passage pendant toute la durée de la prédication, puisqu'on va s'y référer pas mal. Alors lisons ce texte. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode s'était saisi de Jean, l'avait enchaîné et mis en prison, à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode, en sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici même, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus se retira de là, dans une barque, à l'écart, dans un lieu désert. La foule l'apprit, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. On s'arrête là pour la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Merci beaucoup notre Dieu pour ta parole. Merci pour ces textes que tu as inspirés. Et encore une fois, cet après-midi, nous te demandons s'il te plaît de sanctifier la prédication de ta parole et de sanctifier nos cœurs pour que nous soyons attentifs à ta voix et que par ton esprit, Seigneur, tu nous enseignes et par ton enseignement que tu nous transformes, cela à ta gloire. Et au nom de Jésus, Amen. Ton incrédulité n'est pas plus forte que la compassion de Jésus à ton égard. Ça, c'est la bonne nouvelle que ce texte veut nous annoncer. La première chose que le texte nous fait comprendre à partir du début, verset 53, c'est que la compassion de Jésus envers les hommes se mesure vraiment à la lumière de ses souffrances. Je l'ai dit au début, je crois qu'il y a une symétrie dans ce passage qu'on a lu. Et dans la première partie de cette symétrie, l'auteur veut souligner donc l'opprobre, le mépris, le déshonneur qu'a subi Jésus dans le cadre de son ministère. Et il veut que cet opprobre-là qu'a subi Jésus soit le contexte de la compassion de Jésus qu'il va ensuite décrire quelques versets plus loin. Il veut donc que nous voyons la compassion de Jésus envers les hommes à la lumière des souffrances que Jésus lui-même a subies, à la lumière de cet opprobre, de ce déshonneur, de ce mépris dont il a fait l'objet. Et ici, le texte nous rapporte deux éléments particuliers par rapport à ces souffrances de Jésus. D'abord, la façon dont Jésus a été incompris en tant que Messie, et ensuite la façon dont il a été isolé en tant que Messie. Le texte raconte donc que Jésus a exercé son ministère dans sa patrie, c'est-à-dire dans sa région d'origine, sa région d'enfance. Il enseigne dans la synagogue du coin, il accomplit des miracles, nous dit le texte, versets 53 à 58, mais les gens ne l'ont pas reconnu dans cette région-là, ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit qu'ils n'ont pas été capables de voir en lui autre chose que ce qu'ils avaient pris l'habitude de voir en lui, c'est-à-dire un homme ordinaire, gentil, discret, le fils du charpentier, quelqu'un d'un milieu modeste, du même milieu qu'eux, juste un gars du voisinage, quoi, qui n'avait jamais rien fait pour se faire remarquer auparavant. Vous savez, c'est un peu comme quand on interroge les voisins après qu'on ait découvert qu'un habitant d'un certain quartier s'est rendu célèbre par un acte héroïque quelconque, d'accord ? Vous savez comment ça se passe souvent ? Les chaînes de télé vont dans le voisinage et tendent le micro aux voisins. Et souvent, la réponse, c'est « bah ça alors, j'aurais jamais imaginé !» que cette personne ait été capable de faire ça. C'était juste un gars discret, gentil, sans plus. J'ai quand même du mal à le croire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Hein. Les gens n'arrivent pas à croire que ce Jésus, fils de Joseph et de Marie, puisse être autre chose que juste Jésus, fils de Joseph et de Marie, quoi, le voisin sans histoire. Jésus est incompris, méprisé même par les gens qui l'ont vu grandir. Et par conséquent, le texte dit qu'il ne fait pas beaucoup de miracles dans ce coin-là. Non pas que l'incrédulité des gens nuise à la puissance de Jésus, comme si sa puissance était conditionnée ou subordonnée à la foi des gens. Mais plutôt, ce qui se passe, c'est que ces gens, comme ils ne croient pas en Jésus, comme ils ne croient pas qu'il est le Messie que Dieu leur ait envoyé, eh bien, ils ne le sollicitent pas. Ils ne le sollicitent pas, tout simplement. Ils ne se tournent pas vers lui pour obtenir les bienfaits qu'il est pourtant disposé à leur donner. Sur ce passage en particulier, Calvin cite une illustration que j'ai trouvée pertinente, une illustration de saint Augustin, qui dit ceci, enfin c'est Calvin qui paraphrase saint Augustin, il dit que la foi est comme l'ouverture d'un vase, quand il est ouvert pour y mettre quelque chose dedans, et que l'incrédulité est semblable à un bouchon qui ferme si bien le vase que la bonne liqueur que Dieu fait découler d'en haut ne peut y entrer. Et donc l'opportunité n'est pas donnée à Jésus ici de montrer sa puissance, contrairement à ce qui se passera d'ailleurs à la fin de l'épisode. Je vous ai dit qu'il y avait une symétrie. Ce qui se passe à la fin de l'épisode, là, les gens y croient en Jésus, ils le reconnaissent, et du coup ils lui amènent plein de malades pour qu'il les guérisse, et Jésus effectivement le fait. Jésus donc, au début de ce passage, il est incompris, il n'est pas reconnu comme étant le Messie, et de façon un peu tragicomique, si j'ose dire, le texte précise juste après, au chapitre 14, versets 1 et 2, que même Hérode, le méchant roi, le puissant mais méchant roi, se trompe lui aussi sur qui est vraiment Jésus. Il ne le reconnaît pas comme étant le Messie, il pense que c'est plutôt Jean-Baptiste qui serait ressuscité ou réincarné mystérieusement. Et donc dans ces versets, personne ne reconnaît vraiment qui est Jésus. Et l'auteur va insérer exprès à cet endroit un épisode particulier, un peu comme une parenthèse. Il n'est pas très préoccupé à ce moment-là de la chronologie dans son récit. Il veut néanmoins insérer exprès une précision, un épisode particulier ici, où il va raconter la façon dont Jean-Baptiste, justement, a été tué. On ne va pas s'attacher à tous les détails de cette exécution qui a été ordonnée par Hérode. Mais on va seulement remarquer que l'auteur rajoute ici cette anecdote assez horrible de la décapitation de Jean-Baptiste pour souligner l'isolement de Jésus. Non seulement il est incompris en tant que Messie, mais en plus il est isolé en tant que Messie. Il est séparé de son plus fidèle soutien, son cousin bien-aimé, le prophète Jean-Baptiste, qui avait ouvert la voie devant lui. Tout ça, on l'avait vu quand on avait étudié le chapitre 3 de ce même évangile, vous vous souvenez ? Et quand on arrive au verset 13 ici, du chapitre 14, on est censé être très ému, on est censé être très touché intérieurement. Jésus, ici au verset 13, dans sa nature humaine, il semble atteint, il est profondément peiné, il est endeuillé par la perte de Jean-Baptiste, par la disparition de Jean-Baptiste, son plus fidèle soutien, celui qui croyait en lui en fait. Hein ? Incompris et isolé, Jésus, le Messie, se retire maintenant à l'écart, nous dit le texte, dans un lieu désert. Bref, Jésus, dans son humanité, est en train de souffrir. C'est pénible ce qu'il vit en ce moment. Il souffre émotionnellement. Mais vous voyez, il y a une autre émotion qui va être encore plus grande que sa peine. Et elle nous est décrite au verset suivant, verset 14. Cette émotion, plus grande encore que sa peine, plus grande encore que son deuil, c'est sa compassion pour la foule qui l'a suivi jusque dans ce lieu retiré et désert. C'est ce qui nous est décrit au verset 14. Vous voyez pourquoi je disais que l'auteur voulait que l'opprobre de Jésus, son mépris, son déshonneur, soit le contexte dans lequel nous devions voir sa compassion. La compassion de Jésus envers les hommes se mesure vraiment à la lumière de ses souffrances. C'est une chose de voir que Jésus a compassion des foules qui le suivent, mais c'en est une autre de voir qu'il a compassion des foules qui le suivent, alors que dans sa peine profonde, il cherchait à se retirer dans un lieu désert à l'écart, nous dit le texte. Ça change, vous voyez, le contexte, combien il est important dans ce passage. Ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment avec Suzanne, un film que j'ai vu sans doute au lieu de lire la Bible, comme je disais en introduction, ce qui est un témoignage de mon manque de consécration, mais ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment avec Suzanne, où à un moment donné, il y a le directeur de la CIA, service de renseignement des États-Unis, qui vient d'être très gravement blessé par l'explosion d'une bombe nucléaire. Alors il est en train d'agoniser à l'hôpital, et le héros du film se rend à son chevet. Et dans ses souffrances, le directeur de la CIA n'arrive presque plus à parler. Mais néanmoins, avec le peu de souffle qui lui reste dans son agonie au point de mourir, au moment où il est sur le point de mourir, il demande quand même trois choses au héros. Et le président, comment va-t-il? Est-ce qu'il a survécu à l'explosion? Deuxièmement, et ma femme, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle a survécu à l'explosion? Et troisièmement, et ta fiancée, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle a survécu? Et ensuite, il meurt. Alors, mais pourquoi vous riez? C'est horrible ce qui se passe. Mais j'ai trouvé cette scène très touchante parce qu'on voit que cet homme, vous voyez, se préoccupe de la situation des autres avant de se préoccuper de la sienne. Et moi, j'ai envie d'avoir ce genre de personne pour ami. Pas vous? Et ça, c'est une image de la compassion de Jésus à l'égard des hommes dans ce passage. Comme l'auteur nous le décrit ici, Jésus aussi, il souffre, il est peiné, il est atteint. Il a envie de se retirer à l'écart dans un lieu désert, mais il se préoccupe encore plus des besoins des autres. Et ce n'est pas une exagération de dire que cette compassion a été le moteur de la mission de Jésus en tant que Messie. Si Jésus est venu parmi les hommes, c'est par compassion pour les hommes. C'est parce qu'il s'est préoccupé de nos besoins plus que de sa situation à lui, plus que de ses intérêts à lui. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans un passage de l'épître aux Philippiens où il dit, lui, parlant de Jésus, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser Jésus à faire ça? C'est sa compassion envers les hommes. Jésus a enduré cet opprobre parce qu'il s'est préoccupé de nos besoins. Jésus, le Messie, a été incompris, isolé. Et dans la suite de l'histoire, il a été humilié, trahi, abandonné. Et cette trajectoire l'a mené jusqu'à la croix, où il a été méprisé, torturé, exécuté, et où même son Père céleste, pour ainsi dire, lui a tourné le dos. Jésus a enduré tout ça parce que nous en avions besoin. C'était pas une visite de tourisme du Fils de Dieu qui est venu voir ce qui se passait sur la terre. Il est venu par compassion pour les hommes. Nous avions besoin qu'il prenne notre place sur la croix et qu'il subisse à notre place le châtiment que méritent nos péchés. Nous étions perdus, séparés de Dieu par notre faute. Mais la compassion de Jésus envers nous est si forte qu'il a préféré détourner sur lui-même ce châtiment terrible plutôt que de nous laisser le subir alors que ça aurait été parfaitement juste que nous le subissions. Sur la croix, la souffrance de Jésus a été inouïe, mais sa compassion pour les hommes a été encore plus grande. Et donc à ce stade, il y a une question qui se pose à tous ceux qui constatent une forme d'incrédulité dans leur vie, c'est-à-dire à nous tous. Une question qui se pose. Regarde la façon dont la compassion de Jésus envers les hommes se mesure vraiment à la lumière de ses souffrances. Est-ce que tu hésites encore à suivre quelqu'un de si compatissant? quelqu'un qui se préoccupe de ta situation plus que de la sienne, est-ce que tu hésites encore à le suivre, à t'attacher à lui? À quelqu'un de si compatissant qu'il cherche plus à pourvoir à tes besoins qu'à soulager ses propres souffrances, comme on le voit ici, dans ce texte. Rien que ce constat devrait nous attirer, n'est-ce pas, irrésistiblement à Jésus. Rien ni personne dans la vie n'est comparable à Jésus dans sa compassion envers nous. Si nous prenons le temps de réfléchir à cette compassion extraordinaire, quelle préoccupation pourrait bien prendre le pas sur notre relation avec Dieu par Jésus? Réfléchissons donc à la compassion de Jésus, à la lumière de ses souffrances, et déjà notre piété en sera transformée, n'est-ce pas? Il me semble. Mais il y a une deuxième chose dans le texte, et en effet la deuxième chose que ce passage veut nous faire comprendre à partir du verset 15, chapitre 14, c'est que la compassion de Jésus est si grande qu'il n'attend pas que nous fassions nos preuves pour nous secourir. Et à partir du verset 15, le récit nous rapporte ensuite deux miracles très connus. D'abord, la fameuse multiplication des pains, et ensuite, le fameux moment où Jésus marche sur l'eau. Tout le monde a entendu parler de ces miracles. À la fin du chapitre, le texte précise aussi que Jésus va arriver ensuite dans une contrée où les gens se précipitent vers Jésus pour être guéris, et ils sont en effet guéris, ne serait-ce qu'en touchant la frange de son vêtement. Le texte, en fait, il me semble, est en train d'insister ici, non seulement sur le fait que Jésus est compatissant, mais aussi sur le fait que cette compassion est agissante. Elle est efficace. Et comment? Et comment? En multipliant les pains et les poissons pour nourrir la foule, puis en secourant les disciples sur la mer et en sauvant Pierre de la noyade, puis en guérissant les malades dans le pays de Génézareth, Jésus est en train d'exercer sa compassion avec une très grande puissance, si grande qu'elle est miraculeuse même, cette puissance. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que jusqu'au verset 33, qui contient une profession de foi explicite concernant Jésus, jusque-là en tout cas, jusqu'au verset 33, Jésus semble exercer sa compassion en dépit d'une certaine incrédulité de la part des gens. D'après le récit de Matthieu, on sait déjà, et si vous avez suivi cette série de prédications déjà depuis le début, vous devriez savoir déjà que les foules dans le récit de Matthieu qui suivent Jésus ne sont pas en fait animées d'une vraie foi. Les foules sont comparées à des brebis égarées qui n'ont pas de berger, mais elles ne comprennent pas vraiment qui est Jésus. On en a parlé de ça au chapitre 11 et puis au début du chapitre 13. Elles ne rejettent pas Jésus, elles ne le méprisent pas, mais en même temps elles ne reconnaissent pas en lui le Messie qui devait venir les délivrer de l'oppression du péché. Ces foules ne sont pas animées d'une vraie foi. Et puis dans ce passage, on voit aussi l'incrédulité des disciples. Malgré la compassion de Jésus, qui se préoccupe de la foule alors que lui, il est endeuillé, il souffre, il est peiné, malgré cette compassion de Jésus qui se préoccupe de la foule, les disciples, eux, ils sont d'avis qu'il faudrait les renvoyer quand même, ces gens, parce qu'ils commencent à se faire tard et qu'il faut manger quand même. Et puis Jésus leur dit non, et puis il enjoint aux disciples de leur distribuer de la nourriture. Mais encore une fois, les disciples vont faire preuve de certaine incrédulité. On disait, mais non, mais tu rigoles, on n'a vraiment pas ce qu'il faut, on a 5 pains, 2 poissons, on n'a pas assez pour nourrir cette foule. Jésus, quand même, selon sa compassion, toujours va s'occuper lui-même de la situation et pourvoir miraculeusement aux besoins de la foule. Et ensuite, on découvre que Jésus n'a quand même pas, après avoir nourri la foule, et puis finalement, il se fait assez tard, et il les renvoie, et il renvoie les disciples. Finalement, on découvre que Jésus n'a pas renoncé à son projet qui était, vous vous souvenez, de prendre un temps à l'écart. Et il va se retirer, en effet, sur la montagne, seul, nous dit le texte. Et là, c'est la nuit, et il est vraiment seul. Versets 22 et 23. Et là, c'est encore un moment poignant. Jésus est toujours ce Messie incompris et isolé, et il vient d'être séparé de son plus fidèle soutien, son cousin le prophète Jean-Baptiste. Et dans sa nature humaine, encore une fois, il souffre la perte de Jean-Baptiste. Il a besoin d'être seul, de se recueillir, de prier. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, sa compassion va prendre le dessus. C'est sous-entendu dans le texte, mais cette fois, elle prend le dessus en faveur de ses disciples qui sont malmenés par un vent contraire sur la mer. Ils sont partis en barque et puis ils sont malmenés. Les vents n'aident pas les disciples, les emmènent loin sur la mer et ils sont un peu perdus en pleine nuit. Et là, Jésus va vers eux. Dans sa compassion agissante, il va vers eux. Mais eux, encore une fois, sont incrédules. Ah, c'est un fantôme, on a peur. Ils se mettent à crier, dit le texte, verset 26. Mais Jésus les rassure. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il fait dans son impétuosité qu'on lui connaît bien? Il décide de mettre Jésus à l'épreuve. Si c'est vraiment toi, dis-moi de venir vers toi et de marcher sur l'eau comme toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il doute encore, il doute à son tour, Pierre. Toujours cette même incrédulité, mais Jésus, dans sa compassion, le sauve de la noyade, d'une main forte, d'une main souveraine. Vous voyez la façon dont la compassion de Jésus est agissante et efficace malgré le manque de foi des gens qui font l'objet de sa compassion. La compassion de Jésus est si grande qu'il n'attend pas que nous fassions nos preuves pour nous secourir. Elle est si grande qu'il n'attend pas que nous fassions nos preuves pour nous secourir. Alors, pardonnez-moi cette comparaison un peu triviale, mais si vous avez déjà été amoureux de quelqu'un, sans savoir si c'était réciproque, vous savez très bien que ce sentiment amoureux vous incite à vous comporter d'une certaine façon avec la personne dont vous êtes amoureux, indépendamment de la réciprocité du sentiment. C'est-à-dire que vous allez sans doute vous montrer plutôt gentil et attentionné, vous allez chercher à passer du temps avec cette personne, à être en sa présence, à lui parler, vous allez chercher à la connaître, bref. Vous allez vous préoccuper de cette personne, pas seulement en pensée, mais aussi en acte, même si cette personne n'a jamais montré le moindre intérêt envers vous. En fait, un sentiment amoureux authentique n'attend pas de voir un signe de la réciprocité de ce sentiment pour se traduire en acte de bienveillance envers la personne qui fait l'objet de ce sentiment. Alors je l'ai dit, c'est un peu trivial comme comparaison, mais la compassion de Jésus est un peu comme ça. Elle est un peu comme ça. En tout cas, elle apparaît un peu comme ça dans le texte que nous avons lu, hein. Et si nous, par un sentiment amoureux bien limité, nous sommes capables d'agir efficacement en faveur de la personne qui fait l'objet de ce sentiment, à combien plus forte raison Jésus, par sa puissante compassion, si puissante, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix et méprisé la honte, à combien plus forte raison Jésus, donc, par sa puissante compassion, agit-il à son tour efficacement en faveur des gens qui font l'objet de sa compassion, et cela indépendamment de la réciprocité du sentiment ? Et cela aussi, on le voit parfaitement à la croix. À la croix où Jésus est mort, puisque la Bible dit que Jésus, dans sa compassion, a agonisé, a subi les souffrances inouïes dont on parlait il y a quelques instants, au profit de gens qui étaient ses ennemis. C'est le passage que Pierre a lu tout à l'heure. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort. Pour des impies, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Deux points. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous êtes croyant aujourd'hui ? Si oui, rappelez-vous que Jésus a exercé sa compassion à votre égard jusqu'à la mort ignoble de la croix, alors que vous étiez son ennemi. Vous étiez perdu, mort spirituellement, mort dans vos péchés, destiné à subir les justes conséquences de vos fautes. Mais vous faisiez déjà, alors que vous étiez impie et ennemi, vous faisiez déjà l'objet de la puissante compassion de Jésus. Et il a agi selon cette compassion. De la même façon qu'il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, eh bien il a fait surabonder sa grâce envers vous, en expiant tous vos péchés et en vous imputant, c'est-à-dire en vous attribuant sa propre justice parfaite. Et de la même façon qu'il est venu secourir les disciples au milieu de la mer et qu'il a sauvé Pierre de la noyade d'une main puissante, d'une main souveraine, eh bien de la même façon, eh bien Jésus vous a délivré efficacement, une fois pour toutes, du pouvoir des ténèbres et vous a transporté dans son royaume, pour citer un verset de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens. Selon sa puissante compassion, Jésus vous a sauvé alors que par nature vous le détestiez. Et donc on arrive à la fin de ce passage, où Jésus débarque avec ses disciples dans le pays de Génézareth. Et comme je le disais en introduction, ce qui se passe ici est à mettre en contraste avec ce qui s'est passé au tout début de ce texte. À Nazareth, donc, la ville natale, la région natale de Jésus, c'est pas vraiment la ville natale puisqu'il est né à Bethléem, mais en tout cas la ville où il a grandi, les gens étaient dubitatifs par rapport à Jésus. Et du coup, Jésus n'a fait que peu de miracles là-bas, nous dit le texte. Ici, en revanche, le texte nous dit que les gens reconnaissent Jésus et se précipitent auprès de lui pour être guéris. Et ces quelques précisions, je pense qu'elles servent à illustrer l'attitude qui devrait être la nôtre, à notre tour, si nous aussi nous reconnaissons Jésus comme étant véritablement le Fils de Dieu, comme un écho à ce verset 33. Tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est un peu la conclusion de ce passage qui est suivi de ce petit épilogue qui se déroule à Génézareth. Si nous reconnaissons Jésus comme étant véritablement le Fils de Dieu, le Messie incompris et isolé, et pourtant compatissant et efficace dont il a été question dans ce passage, alors nous aussi nous devrions nous précipiter vers lui, n'est-ce pas, et le supplier de venir à notre secours, hein, plutôt que de considérer Jésus d'un regard méfiant et hésitant, comme beaucoup le font de nos jours, peut-être certains parmi nous, plutôt que de rester à distance par rapport à Jésus dans notre consécration, qui est incertaine, hésitante, voire même complètement absente, eh bien, nous devrions bien plutôt, et si nous y réfléchissons, c'est vraiment logique, nous devrions bien plutôt nous précipiter en effet vers lui, le supplier d'agir dans notre vie, de déverser dans notre vie ses nombreux bienfaits. Il faut enlever le bouchon de notre incrédulité, ouvrir le vase et chercher à recevoir tout ce que Dieu veut déverser d'en haut dans notre vie, ne serait-ce que par un léger contact avec la frange de ses vêtements. C'est-à-dire que même s'approcher un peu de Jésus dans la prière, même s'approcher un peu de Jésus par la lecture de sa parole, la Sainte Bible, même s'approcher un peu de Jésus en venant à l'église le dimanche soir, ça vaut tellement mieux que toutes nos autres préoccupations. Vous voyez, la compassion de Jésus est si grande qu'il se préoccupe de notre situation plus que de la sienne. Elle est si grande que malgré nos doutes, sa compassion est déjà efficace en faveur de ceux qui en font l'objet. Voilà pourquoi je disais en introduction que ce texte avait une excellente nouvelle à nous annoncer. Ton incrédulité ordinaire, si j'ose dire, ton incrédulité de tous les jours, n'est pas plus forte que la compassion de Jésus à ton égard. Et c'est en étant convaincu de ça qu'en réalité, ton incrédulité va diminuer. Si tu es convaincu que la compassion de Jésus est encore plus forte que ton incrédulité, alors ton incrédulité va diminuer. Tu es peut-être aujourd'hui un Nazaréen dubitatif, mais tu peux devenir un Génézaréen enthousiaste. Oui, bien souvent nous sommes découragés par le niveau de notre consécration à Dieu. Nous croyons en lui, mais il y a tellement de choses qui nous démoralisent quand nous considérons la qualité bien faible de notre piété. Et c'est mon cas, le premier. Tellement de préoccupations qui prennent le pas sur notre relation avec Dieu. Et peut-être même qu'à ce jour, vous n'avez pas du tout de relation avec Dieu. Comment Dieu pourrait-il me soutenir dans la vie quand ma foi est si petite, voire complètement absente? Eh bien, regarde la compassion sans égale de Jésus à ton égard. Et vois la façon dont sa compassion s'est traduite en acte, malgré ton incrédulité. Une compassion qui se mesure donc vraiment à la lumière de ses souffrances, et une compassion si grande que Jésus n'attend pas que nous fassions nos preuves pour nous secourir. Et donc un des meilleurs remèdes à ton incrédulité ce soir, un des meilleurs remèdes à tes doutes, à tes tergiversations, à tes tentations, à tes addictions, eh bien c'est de contempler Jésus. Le Messie incompris et isolé et pourtant compatissant et efficace. Et cette compassion puissante et efficace n'apparaît pas plus clairement qu'à la croix. C'est cette réalité qui a complètement bouleversé la vie de l'apôtre Paul et qui l'a conduit à dire ceci. L'amour du Christ nous étreint. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'amour du Christ me presse, me pousse, me motive, il m'étreint. Et il poursuit en disant, il est mort afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Prions. Nous confessons en effet, Seigneur notre Dieu, notre incrédulité ordinaire, le fait que tant de choses prennent le pas sur notre relation avec toi. Et nous te demandons ton secours, Seigneur, toi qui es tellement disposé dans ta compassion à déverser ta grâce dans notre vie, cette grâce qui surabonde là où le péché a abondé, eh bien Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, par ton esprit, de nous aider jour après jour à contempler un petit peu mieux la croix où ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous, et que nous comprenions tout ce que c'est, cette croix et l'amour qui a été manifesté à cette croix, tout ce que cela implique pour notre vie et pour notre consécration à toi. Amen.